I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à parler littérature et mode, évidemment, avec la journaliste, romancière et critique littéraire Stéphanie Desor, dont je viens de dévorer sa dernière parution sur mes deux icônes glamour de l'Amérique des années 90, Caroline Bessett et John Kennedy Jr. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Valérie.
Alors, pour les éditions du livre de poche, tu es qualifiée comme l'auteur la plus glamour du livre de poche.
J'adore ça. J'adore ça. Je crois que j'adore vraiment le livre de poche. Non, l'auteur la plus glamour, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un intérêt vraiment pour les personnes très glamour, pour l'élégance, pour le chic, que ce soit dans l'allure du personnage, dans la mode, effectivement, dans le destin. J'ai toujours, effectivement, fait des femmes assez chic, quoi. Et c'est pour ça que mes couvertures, dont on parlait un peu tout à l'heure... Voilà, elles sont toujours en noir et blanc. Ce sont des photos. Il y en a beaucoup qui sont des photos de Cécile Beaton. C'est effectivement très en rapport avec l'allure. J'adore ça.
Alors, comment t'es devenue écrivain?
J'allais dire tout à fait par hasard, non, parce que le hasard n'existe pas, et c'est vrai que je le dis dans chacun de mes livres. En fait, j'étais mariée, j'habitais en province, je ne travaillais plus, et le côté littéraire me manquait beaucoup, et je lisais énormément, et j'ai toujours beaucoup lu. Et un jour, j'ai eu la grande chance de croiser, à la chasse à cour, un journaliste qui s'appelait Bruno de Cessol et qui m'a dit « Écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour des chroniques littéraires dans Valeurs Actuelles. » Et donc, j'ai commencé à faire des chroniques littéraires. Cela m'a beaucoup plu. Et Bruno... et alors, il y a des auteurs qui sont très bien élevés. Il y a des auteurs qui vous remercient et qui vous invitent à déjeuner quand vous faites un papier sur eux. Et donc, peu à peu, je suis rentrée dans le milieu littéraire. Qui est un milieu très fermé. Mais après, parce que je suis rentrée par les différentes portes, en fait. Ensuite, j'ai divorcé et il fallait que je gagne ma vie. Et donc, à ce moment-là, je suis devenue lectrice pour certains éditeurs, dont le livre de poche, puis Pocket.
Alors, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est, ce métier ? Alors, c'est pas connu de tout le monde.
Non. Alors, être lectrice, c'est un métier qui est assez difficile parce que on vous donne un manuscrit la plupart du temps en anglais, parce qu'il y a ça aussi qui est important. Il faut savoir que un livre étranger qui va être publié en France, très souvent, les droits poche sont achetés avant que le livre ne paraisse vraiment en grand format. Ainsi, un jour, sous le sceau du secret, on me donne un manuscrit en anglais et on me dit « Est-ce que tu peux regarder ?» C'est un livre qui va paraître chez Lattès. Et est-ce que tu peux regarder pour nous dire si on achète les droits tout de suite en poche ? C'était le sceau du secret et il fallait absolument que je le rende le lendemain. Ce livre, c'était Fifty Shades of Grey.
Ah oui, quand
et,
même.
Et donc, on ne savait rien. Et donc, j'ai lu d'une traite en disant, alors écoutez, c'est horriblement mal écrit. Alors,
50 nuances de grey.
Oui. 50 nuances de grey. Et ma fiche était, j'ai mis 19 sur 20 en disant, c'est horriblement mal écrit. Maintenant, la fille, elle a 7 orgasmes à la minute. Toutes les femmes au foyer vont adorer. Il faut absolument publier ce bouquin. Et donc, c'est ce que je faisais. Je prenais les manuscrits, je les dévorais et je faisais ma fiche de lecture.
C'est une sacrée responsabilité, quand même.
Bah, c'est une responsabilité, mais c'est du travail parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Pour un livre, on en a, on passe à peu près 5 heures et il faut savoir le restituer. Et donc, j'ai fait ça pendant des années. Donc, entre mes fiches de lecture, mes articles pour Valeurs Actuelles, un jour, mais comme tout journaliste, je me suis dit « pourquoi pas moi ?» Et j'ai écrit un livre qui n'est pas sorti, j'en ai écrit un autre qui n'est pas sorti et j'en ai écrit un troisième qui cette fois-ci est sorti et qui n'a pas marché, il faut le dire. Voilà.
Parce que c'était un roman ?
C'était un roman qui se passait dans l'Angleterre des années 60 et c'était chez Ramsay et ça n'a pas du tout marché. Mais le hasard n'existe pas. Et pour ce roman, je fais le salon du Figaro et je suis assise à côté d'un garçon qui s'appelle Stéphane Hoffmann, charmant, et qui me présente une femme qui passe et qui s'appelle Karina Hossin et qui, à l'époque, est numéro 2 de La Thèse. Et voilà. Et puis, le temps passe. Il s'avère que je suis très malade. Donc, je m'enferme et tout ça. Et puis, au bout d'un an, je reçois un coup de fil de Karina Hossin qui me dit « J'ai une idée, j'aimerais vous voir. » Donc, je vais à Paris, j'habitais Tours, je me relève tout juste d'un vilain petit cancer qui n'est jamais revenu, donc ça, c'est très bien. Et là, elle me dit « J'ai une idée, il semblerait que chez Cartier, il y ait une égérie qui s'appelle Jeanne Toussaint, regardez ce que vous pouvez en faire. » Je rentre dans la vie de Jeanne Toussaint, je rentre dans la vie de chez Cartier et cela donne La Panthère qui sera mon deuxième livre et qui lui va marcher très fort.
Alors c'est ce que tu fais, tu écris de la vérité romanesque.
La vérité romanesque, oui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, les gens appelleraient plutôt ça un biopic. C'est ce qu'on voit dans toutes les séries, qu'elles s'attellent à Balenciaga, à Dior, à je ne sais qui. On prend des personnages qui ont existé, on prend des faits réels, mais on romance leur vie de tous les jours. Moi, quand j'ai fait Jeanne Toussaint, quand j'ai fait Jackie Kennedy et sa sœur Lyra Divi,
il y a Pamela Harriman, la belle-fille de Churchill, les sœurs Livanos.
Voilà, il y a Rita Hayworth. Et donc, je raconte leur vie. Tous les faits sont réels, mais je vis avec elle. Donc, quand je les fais parler, je veux dire, je ne suis pas dans le lit de Caroline et John. Je ne suis pas dans l'avion avec Caroline et John. Sauf que je sais en combien de temps l'avion va tomber et j'imagine ce qu'il se passe. Et donc, en fait, je n'écris pas la vérité, mais j'écris une espèce de ce qui va se rapprocher le plus de la vérité, une espèce
c'est
de romance, cristal.
C'est un petit peu romancé aussi.
Ben dans les dialogues, oui,
forcément,
mais
ouais.
Pas dans les faits.
Mais j'adore parce que j'ai vu aussi, je n'arrive plus à trouver dans mes notes, je crois que c'était dans une interview sur RTL, tu as dit que tu te mettais à la place de tes héroïnes et que tu mettais un temps après à t'en détacher.
Ah oui, complètement. Tout à fait. Quand j'ai écrit le précédent livre, Cynthia, qui racontait l'histoire d'une espionne, il y a toute une scène où elle doit ouvrir un coffre-fort dans une ambassade en France et je pense que je suis capable d'ouvrir un coffre-fort. Je le pense. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, on en parlait en off, je n'ai pas d'idée sur le prochain livre parce que je suis encore trop investie dans Caroline et John qui m'ont vraiment emportée avec eux. C'est vraiment une manière d'échapper à ce monde de tous les jours que je déteste. Moi, je ne suis pas une fille du 21e siècle du tout.
J'avais prévu cette question. T'aurais aimé vivre à quelle époque ?
Alors, c'est quelque chose qui est très dur parce que toutes les époques connaissent des noirceurs épouvantables. Je pense que j'aurais adoré vivre dans les années 30, c'est-à-dire ce que l'on appelait les années folles, cette espèce de folie que j'ai décrite dans ce livre qui s'appelle Les Heureux du Monde. J'aurais adoré, sauf que vivre dans les années 30, ça veut dire voir arriver le fascisme, voir arriver Hitler, voir arriver la Seconde Guerre mondiale. Alors finalement, je pense que ce qui aurait été très confortable pour moi, c'est d'avoir de vivre dans les années 50, mais seulement avoir 20 ans dans les années 50, ça veut dire être né dans les années 30, donc avoir encore connu cette guerre. Mais le voilà. Mais non, j'aurais aimé vivre dans un monde où les femmes, où la rue était belle. Aujourd'hui, je trouve que la rue est épouvantable. Tu te promènes dans la rue, ce que tu vois autour de toi n'est pas beau. La mode d'aujourd'hui, les filles de tous les jours, ce n'est pas beau. Tu regardes des images d'archives des années 30 à New York, à Paris ou des années 50, mais c'est magnifique. Les femmes portent des gants.
Elles sont chapeautées.
Les hommes ouvrent les portes aux femmes et quand ils entrent dans une pièce, ils retirent leur chapeau. C'est... Voilà, j'aimais vivre ces époques élégantes et je trouve que ce 21e siècle, en plus d'être un vrai fouillis où on s'y perd complètement entre les sexes, les genres et autre chose, il n'y a aucune élégance. Ou du moins, je n'aime pas ça. Je suis allée à un dîner l'autre jour, un dîner très très bien, très chic. Et alors, c'était chez une Américaine formidable. Mais alors, le maître d'hôtel, qui était le chef en même temps, a gardé sa casquette pendant tout le long du dîner et il portait sa casquette à l'envers. Je ne suis pas snob, j'habite dans un tout petit appartement, j'ai pas de personnel, j'ai rien du tout. Sauf que là, je dois dire que ça m'a un peu choquée.
Oui, un manque d'élégance.
Je sais pas, ça m'a choquée et c'est très étonnant.
De toute façon, ton univers est glamour et élégant. Alors, j'ai vu dans une interview que tu aimes rouler en Bentley, tu aimes être bien habillée, tu adores fumer des cigarettes égyptiennes et avoir des photos de toi en noir et blanc.
Ah non, mais ça doit être une très vieille interview.
Ah bon, parce que changé
je ne fume plus depuis très longtemps. Ou alors peut-être que je devais me dire si jamais, je pense que c'est si jamais j'avais le choix et qu'on vivait de oui, j'aimerais rouler en Bentley, mais je ne roule pas en Bentley, je roule en rien du tout. Si déjà je pouvais rouler en Mini, je serais contente. Mais non, dans une autre vie, dans une vie idéale, j'aimerais, oui, rouler en Bentley, fumer des cigarettes égyptiennes avec le bout doré et j'adorerais ça. Mais je ne vis pas mon époque. J'aimerais porter, m'enduire d'huile de Jean Patou, pouvoir bronzer en se disant que le bronzage, ça fait du bien au corps. Des choses que...
Mais si on ne va pas te dire, attention, tu vas avoir un cancer.
Voilà.
On vit dans une société extrêmement anxiogène. On a le droit de rien faire. Maintenant, on ne peut même plus sortir en mini-jupe dans la rue.
Ah ben non, on ne peut plus sortir en mini-jupe parce que... Non, plus du tout. On ne peut plus rien faire. On est obligé de se fondre dans une espèce de pensée unique. Et tu sais, Valérie, moi, je fais attention à ce que je dis aujourd'hui, à ce que je poste sur les réseaux sociaux parce que la moindre chose peut faire figure de harcèlement. J'essaye de poster des choses qui ne sont pas trop personnelles et plutôt des choses en rapport avec mes livres ou les livres des autres ou les films que je vois. Mais je me souviens d'une chose qui m'avait fait très peur. J'avais, au moment de la guéguerre entre Meghan et Kate, moi j'étais à fond Kate Middleton, et je mettais hashtag Team Kate, hashtag Meghan va-t'en. Et j'ai eu un retour de gens qui, enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, du troll ou quelque chose
oui,
comme ça. Un hashtag harceler cette fille parce qu'elle n'aime pas Meghan. Et donc, tout de suite, je n'ai plus jamais rien mis contre Meghan, qui finalement est intéressante d'un point de vue romanesque, très très intéressante. Mais d'un point de vue sentimental, effectivement, mon cœur est à Kate. Et je me suis dit qu'il fallait faire très très attention à ce que l'on disait.
Surtout quand tu es une personne publique, ça peut te détruire. Hein.
Ça peut te détruire.
Je peux en parler aussi.
Voilà. Et non, ça peut te détruire. Donc, je fais attention. Je ne prends jamais position. Lise, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas jamais prendre position sur la politique, sur les conflits mondiaux, sur ce qui se passe en ce moment. Jamais. J'ai beaucoup d'amis qui le font et j'admire leur courage. Mais je ne le ferai jamais. Je veux rester dans cette... Juste des réseaux sociaux comme d'une jolie vitrine.
Ton univers, t'es dans un univers très beau, très chic, très ça casserait ton image en fait.
Voilà, et puis j'estime que ce n'est pas à moi d'en parler. Je ne suis pas du tout un auteur engagé.
Alors,
pas du tout.
Tu me parlais, non, au contraire, tu nous fais rêver.
Voilà.
Tu nous sors de moi. J'ai lu Jackie, Ellie et Caroline et
John.
Et John, parce que je suis vraiment une fan des Kennedy. Ça m'a transportée. Tu vois, John et Caroline, le premier, je l'ai lu dans la première partie, je l'ai lu dans l'avion, la deuxième dans un TGV. Mais j'étais ailleurs.
Oui, mais moi aussi, je vais te dire, quand j'écris...
Ça fait un bien fou.
Ben, ça fait un bien fou, c'est... Alors, effectivement, moi, quand j'écris, je deviens eux. Et en fait, Caroline et John, ça m'a beaucoup étonnée parce que je ne pensais pas que ça me passionnerait autant. Et je vais t'avouer, j'ai choisi ce sujet en me disant, ce sont les 25 ans de leur mort. Le 16 juillet 2024, ça fera 25 ans qu'ils sont morts, déjà. Et j'ai pris ce sujet en me disant, il y a une actualité. Et en fait, je suis tombée dans leurs bras. J'ai été emportée par la magnificence de John et par le mystère de Caroline. Et je crois que je deviens vraiment, vraiment, vraiment eux. Et je crois que si j'avais été plus jeune, je me serais fait raidir les cheveux, je serais devenue blond platine, j'aurais été Caroline, quoi.
À ton avis, pourquoi ce couple fascine tant ?
Alors, on est toujours fasciné par la jeunesse éternelle. Hein. Oui. On est les Marilyn, enfin tous ces gens morts dans la fleur, dans la beauté, dans la jeunesse. Ils sont jeunes pour l'éternité, ils sont légendaires. Mais en plus, là, c'est un destin brisé, c'est un gâchis total.
C'est surtout un accident. Tellement con.
Tellement con. Ouais. Mais c'est le petit prince de l'Amérique. Tout le monde a fondé tous les espoirs étaient sur lui. Veut dire les espoirs de sa famille, comme les espoirs des Américains. Il avait tout. Il était beau, il était sympa, il était chic, il était charismatique.
Moi, il avait l'air sympa puisque jamais il s'attaquait à un photographe. Mais il jamais. Connaissait tous les paparazzis, saluait tout le monde.
Et moi, j'ai rencontré des gens qui l'ont connu. J'ai même rencontré une de ses anciennes petites amies. Et elle m'a dit, mais c'est le plus grand des gentlemen. Mmh. Le plus grand des gentlemen. Elle m'a dit, je n'ai jamais connu un tel gentleman. Cet homme avait tout.
Tu le racontes dans le livre, parce que quand il était plâtré ou quand on lui avait enlevé son plâtre, il a voulu porter la valise de la sœur de Caroline Kennedy, Caroline Bessette. Enfin,
bien Bessette sûr.
Kennedy, alors qu'il était blessé. Et tu as déclaré, c'était sur RTL, le destin de John Kennedy était d'être jeune pour l'éternité.
Oui. Mais les Kennedy, toi, tu m'as dit, je suis fascinée par les Kennedy, mais parce que les Kennedy, voilà, c'est une suite de beaux visages qui restent dans l'éternité, de destins brisés. Et,
c'est aussi une famille assez, comment dirais-je...
Damnée.
Oui.
D'années, absolument. Mais John, non, John, je sais pas. En fait, le problème de John, c'est qu'il avait raté beaucoup de choses. S'il avait vécu, qu'aurait-il vraiment réussi ?
C'est la question que je me pose tout le temps.
Voilà.
Et Caroline, comment serait-elle aujourd'hui ?
Alors, Caroline, je pense qu'elle l'aurait quitté. Parce que... je ne sais pas ce qu'il aurait fallu pour que le couple reste ensemble, parce que lui, il aurait tout fait pour la garder. Il était fou d'elle. Mais Caroline est meurtrie de l'intérieur. Elle a une faille, quelque chose. Alors, bien sûr, le manque de père, seulement elle n'est pas la seule. Mais moi, tout ce que j'ai pu trouver, tous les écrits que j'ai pu déchiffrer parlent d'une fille qui ne donnait rien, mais qui ne donnait rien aux hommes, mais qui ne donnait rien aux femmes, qui ne donnait rien à personne, qui ne donnait rien aux photographes. Et comment John aurait pu la garder ? Il y a certaines photos sur lesquelles, bon, elle l'aime d'amour, elle le regarde et tout, mais comment aurait-il pu l'apaiser ? Je ne sais pas. Je crois qu'il aurait fallu lui trouver un rôle. Et parce qu'elle est assez désœuvrée, elle n'a plus de job et elle erre comme une âme en peine.
Elle est aussi tombée dans la drogue.
Mais elle est tombée dans la drogue parce qu'elle est désœuvrée.
Et elle vivait très mal d'être traquée par la presse.
Oui, mais en fait, c'est le cercle vicieux. Donc, elle ne donne rien, elle ne fait pas un sourire au photographe. Donc il la poursuive. Quand John lui a expliqué, mais c'est ce que font William et Kate aujourd'hui. On a l'anniversaire d'un enfant, on donne une photo, on a un anniversaire de mariage, on pose pour les photographes. Et ensuite, ils nous fichent la paix. Et Caroline n'a jamais voulu poser par les photographes. Et ensuite, elle va, faire un focus sur Lady Diana. Elle se retrouve à l'enterrement de Gianni Versace et là, Lady Diana ne la regarde pas. Il y a d'ailleurs une photo très intéressante où on voit Lady Diana qui est au premier rang à côté d'Elton John et derrière, deux ou trois rangs derrière, il y a Caroline qui regarde Lady Diana d'un air interrogateur et Lady Diana ne rend pas le regard. Caroline est snobée. Et elle va se focaliser sur Diana. Et Diana est dans cette période où elle a quitté Charles, où elle est poursuivie.
Elle brille particulièrement.
Elle brille, elle rayonne. Et voilà, mais ça va se terminer par la course fatale sous le tunnel de l'Alma en 97. Et à partir de là, Caroline Bessette dit « Je serai la prochaine ». Donc, elle est paranoïaque. Elle prend de la drogue pour se rassurer, mais la drogue la rend encore plus paranoïaque. On connaît les effets dévastateurs de la cocaïne. Et voilà. Et donc, pour en revenir à ta question, si on lui avait trouvé une activité, j'ose à croire, Ted Kennedy voulait que John se lance dans la politique.
Il l'aurait fait, je pense.
Voilà. Et que Caroline l'accompagne. Si Caroline avait été mise dans un cadre, si elle avait été protégée, si on lui avait dit ton destin est d'être première dame des États-Unis, peut-être que ça aurait sauvé leur couple.
Alors, Caroline Bessette, tu l'as décrit comme une beauté énigmatique qui était muse de Calvin Klein. Et c'est vrai qu'elle a inventé le quiet luxury.
Et tu sais quoi ? Je ne savais pas ce que c'était. Parce que je ne savais pas.
Je vais lire un extrait de ton livre. Elle connaît la mode par cœur. Elle a inventé le look. Elle se joue du noir et du blanc, du grège et de l'écru, du droit comme de l'échancré, de la ligne comme des froufrous. Elle associe perfection et décontraction. Elle impose les valeurs sûres, le chic, intemporel. Sa beauté exulte le classicisme.
Alors, c'est ce que j'ai ressenti.
Et à ce moment-là, tu ne savais pas ce que c'était.
Non, ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu par les photos. Mais quand j'ai dit à ma fille, qui a 28 ans, je lui dis, j'écris sur John Kennedy et Caroline Bessette, mais tu ne sais pas qui c'est. Et ma fille m'a regardée, m'a dit « Mais comment, maman ? Bien sûr que je sais qui c'est, Caroline Bessette, la reine du Quiet Luxury Style. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, elle m'a dit « Mais enfin, maman !» Et je dis « Oui, c'est vrai, les coupes droites, les crues et tout ça. »
Et la simplicité.
Et la simplicité et la désinvolture. Et je ne savais pas. Et Joy m'a dit « Mais maman, votre livre va faire un carton parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Ouais. On suit Kelly Rutherford partout. » Alors, Kelly Rutherford, ça me parle parce que ma série préférée, c'est quand même Gossip Girl. Mais je ne savais pas. Et donc, mais voilà, donc les gens savent qui elle est et donc elle est attirante.
Ben, il faut voir le nombre de comptes Instagram qu'il y a sur Caroline Bessette.
C'est complètement fou. Et les photos sont extrêmement intéressantes parce qu'elle a une évolution très, très intéressante. Elle trouve son style. Elle le trouve peu à peu. Au début, moi, j'ai vu des photos quand elle est très jeune. Elle a ses cheveux très longs, mais un peu frisottés. Ils sont pas blonds, ils sont foncés. Elle est trop maquillée autour des yeux. Et peu à peu, elle va trouver cette chose-là. Et ce blond que va lui inventer le coiffeur Brad Jones...
Ouais, c'est le plus grand coiffeur de Manhattan.
C'est complètement fou. Mmh. Et ils disent, et quand on demande à Brad Jones qu'est-ce que c'est que ce blond, quelle est cette couleur, et il dit, mais cette couleur, le nom de cette couleur, c'est Fabulous. Et voilà. Et c'est totalement insensé.
Combien de temps tu as mis pour écrire ce livre ?
Alors, en règle générale, je mets 6 mois.
Parce qu'il y a toutes les recherches en amont, j'imagine.
Oui, mais les recherches... Alors, aujourd'hui, les recherches vont très vite. Grâce à Internet, on a tous les articles de journaux tout de suite. Pour ce livre-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que habite en dessous de chez moi l'ancien patron de Paris Match, Patrick Mahé, qui m'a donné accès à toutes les archives Paris Match. Et en plus, par les systèmes de vente par correspondance, on a les livres tout de suite. Donc moi, je rentre sur mon ordinateur, sur Google, les livres qui existent sur John John ou Caroline Bessette, et je les achète et je les fais venir.
Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu as quand même rencontré des des gens qui les avaient côtoyés. Et comment tu les as contactés, ces personnes ? Tu les as eues assez facilement ?
Alors oui, il s'avère que c'était des amis, parce que c'est ma génération. Moi, je suis née en 65, Caroline est née en 66, John est né en 1960. Donc les gens que je connais, dans un certain monde, ils les ont côtoyés. Et j'ai rencontré, donc avant le livre, donc j'ai rencontré cette femme qui a été l'amoureuse, une des petites amies de John. Donc je l'ai rencontrée, mais après il y a plein de gens qui m'ont dit mais je les connaissais tellement bien, notamment mon amie américaine Christy Ferrer me dit, et c'est là où j'ai su, elle me dit mais Stéphanie, j'ai tellement bien connu Little John. Et donc les Américains l'appelaient Little John.
Mais et ils détestaient qu'on l'appelle John John.
C'était les Français, c'était un coup des Français ça, John John, je sais pas pourquoi.
Alors c'est vrai que dans tes livres, donc toutes tes héroïnes sont quand même toujours très élégantes. Tu choisis que des femmes élégantes et tu les décris souvent. Tu décris leur style. Alors là, je vais lire un extrait de Jackie Ellie. Jackie arrive, elle porte une robe droite, écrue, sans manches et un carré Hermès à peine serré sur ses cheveux bouffants. Des lunettes noires barrent son visage. Elle a la foulée alerte, le sourire figé. Soudain, elle ralentit. Puis, blablabla, ça continue. Mais alors, tu t'attaches énormément aux fringues. Est-ce que tu t'en as conscience ?
Alors, c'est pas que je m'attache énormément aux fringues, c'est au style que je m'attache. Et en l'occurrence, le
style. Au détail de mode.
Voilà, et le style Jackie Kennedy, c'est tout ce que j'aime. Je fais en ce moment pour, alors je sais pas si on peut le dire, pour Gala, une série mode sur Givenchy. Donc aujourd'hui sort Givenchy et Audrey Hepburn, et la semaine prochaine va sortir Givenchy et Jackie. Et c'est vraiment Givenchy qui a inventé Jackie. Jackie, si tu veux, autant Lyra Zivil était d'une finesse, elle avait le corps qu'il fallait, etc. Autant Jackie partait de beaucoup plus loin. Et sauf que Jackie avait le sens du style. Elle chaussait du 43, tu sais.
Non.
Mais ça, personne ne le voit. Ah ben si, parce que quand elle arrive chez les Kennedy, elle leur dit, c'est des pestouilles les filles Kennedy, et elle leur dit, elle arrive dans la vie de John, et de Jack, et elle leur dit, moi j'aurais voulu être danseuse, et Eunice Kennedy la regarde et lui dit, bien écoute, avec les pieds que tu as, tu aurais mieux fait d'être footballeuse. Et voilà, elle avait des grands pieds, et elle avait des grandes épaules. Et en fait, ce style de robe que j'adore, trois trous avec les petites manches, mais c'était incroyable. Et le bibi, mais le bibi de Jackie, c'est Givenchy, c'est pas Oleg Cassini, c'est Givenchy, ce petit pillbox que j'adorais tant. Et tu sais que Jackie devait obligatoirement être habillée par un couturier américain. Obligatoirement, parce qu'elle était américaine. Mais elle adorait Givenchy, donc elle faisait tout venir de France. Puis avec ses petits ciseaux à ongles, elle découpait les étiquettes.
Et ça, pareil, tu l'as su en lisant des archives ?
Alors, je l'ai su parce que j'ai un grand ami que j'adore, que tu dois connaître, et sinon je te conseille tous ses livres. Il se nomme Jean-Noël Liot. Et Jean-Noël Liot a beaucoup écrit sur la mode, sur les cover girls des années 60, les Suzy Parker, etc., Bettina. Et il était un grand ami de Lyra Zivil. Et c'est lui qui m'a donné 1000 anecdotes sur Jackie Ellie.
Et Lyra Zivil qui était aussi magnifique.
Qui était magnifique, mais toujours dans l'ombre de sa sœur. Toujours. Mais qui était plus fine, qui avait un visage... Jackie ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père, Black Jack Bouvier. Comme son fils, John John, ressemble comme deux gouttes d'eau au grand-père, Black Jack Bouvier. John John, il n'est pas Kennedy pour un sou. Hein. Il est plutôt Bouvier. Celle qui est très Kennedy, c'est Caroline, sa grande sœur, qui a 3 ans de plus que lui, qui ressemble à son père comme deux gouttes d'eau.
Quel est ton parmi toutes ces femmes, alors, toutes ces femmes dont tu m'as parlé, sur lesquelles tu as écrit, t'aimerais être laquelle ?
J'aimerais être Jackie. C'est à moi, c'est alors il y en a une qui me fascine, c'est Pamela Harriman. C'est Jackie ou Pamela si tu veux, mais
alors Pamela Harriman, est-ce que tu peux resituer?
Ah ben tout à fait, Pamela, ma fascination Pamela, c'était mon 7e livre Pamela. Alors c'est une rousse, une petite rousse de la gentry, une anglaise qui s'ennuie à la campagne comme c'est pas possible, qui ne veut qu'une chose, c'est aller à Londres et s'amuser, et elle a bien compris qu'il fallait épouser un bon mari. Et donc il s'avère qu'à ce moment-là, il y a Randolph Churchill qui cherche quelqu'un qui lui fasse un enfant. Et donc, comme il est alcoolique, qu'il raconte n'importe quoi, les filles n'en veulent pas. Et puis, bon, il tombe sur Pamela, une histoire de circonstances. Il se marie. Ça se passe très mal, mais elle tombe enceinte et elle va donner naissance au petit Winston. La guerre éclate. Il s'avère que Pamela est une fille très intelligente et qu'elle va devenir la passion de son beau-père Churchill. Il la trouve tellement fine, il sait très bien qu'elle trompe son fils, mais il s'en fiche, il n'a pas beaucoup d'admiration pour son fils. Churchill, il fait la guerre, il est dans l'action. Et il s'avère qu'il y a quelque chose qui l'arrangerait beaucoup, c'est que les Américains entrent en guerre, arrivent à Londres, Avril Harriman, plus beau tumeur. Lui, c'est un milliardaire américain, ambassadeur des États-Unis en Angleterre. Pamela le met dans son lit et lui soutire tous les secrets qu'elle restitue à Churchill, qui est ravi. Après ça, on va retrouver Pamela...
Avec Agnelli aussi.
Alors, avec Agnelli, mais...
Je crois que c'est là que tu parles de la beauté des fesses d'Agnelli.
Oh, les fesses d'Agnelli. Alors, le grand amour de Pamela, donc Pamela va divorcer, Pamela va être la maîtresse de beaucoup de gens.
Sinatra aussi.
Sinatra, Alican la quitte pour Rita Hayworth, mais voici qu'arrive Agnelli, elle tombe folle d'Agnelli, et puis il y aura Elide Rothschild, elle va épouser Leland Hayward. Et à 50 ans, Pamela, cette petite Anglaise que rien n'arrête, retombe sur Avril Harriman, qui cette fois-ci est veuf. Lui, il a 80 ans, elle va lui mettre la main dessus lors d'un dîner charité, etc. Il va l'épouser, elle va devenir citoyenne américaine, et ils vont inventer un truc qui n'existait pas, qui sont les dîners de charité. C'est-à-dire qu'on organise des dîners, on fait payer les grands comptes et on essaye de sortir un petit gars qui serait présidentiable. Et voilà qu'il tombe sur un beau garçon, vraiment un beau garçon, qui sort du fer fond de l'Arkansas. Enfin, il est totalement plouc. Hein. Et puis, il a un autre problème, c'est qu'il aime les femmes. Bill Clinton.
Ah!
Ils vont le faire élire, et pour la remercier Pamela, quand Bill Clinton sera élu, il va la nommer ambassadeur des États-Unis en France. Et elle ne trouvera rien de mieux à faire. Au bout de quelques années à l'ambassade, où elle s'est bien amusée, elle a été formidable, elle ne trouvera rien de mieux à faire que de mourir dans la piscine du Ritz, ce qui est quand même étonnamment
c'est
chic.
Très chic.
Voilà. Et donc, non, j'aurais adoré être Pamela.
Pamela mais, ou Jackie? Ouais, mais... Pamela, c'est
plus funky, mais Jackie, quand même, c'est passer la nuit avec JFK et passer la nuit avec Onassis, qui doit dévorer les femmes.
Sur son yacht en Grèce.
Sur son yacht en Grèce.
Quelle est ta définition de l'élégance, au final ?
Oh, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Pour moi, l'élégance, c'est une désinvolture. C'est une allure, c'est une désinvolture, c'est pas, je vais pas te décrire des vêtements, je vais pas, non, c'est juste une femme qui passe, qui va se tenir très droite, qui a un port de reine, et tu pourrais mettre n'importe quoi sur elle, elle pourrait avoir n'importe quelle couleur de cheveux, peu importe, tu ne vois qu'elle. L'allure, la personne qui rentre, qui est le coup de soleil, qui, tu veux lui ressembler. Mais c'est quelque chose de très désinvolte.
Que, regarde, Caroline Bessette était habillée toujours très simplement.
Très simplement. Et ce look...
Elle ne portait jamais de talons.
Non, mais non, elle était très grande. Elle en portait un petit peu, mais c'était toujours des petits talons. Elle a deux looks que j'adore. Il y a le look jean, pas de flair, avec son petit t-shirt noir à emmanchure américaine et avec le col montant. Et là, elle a des sandales. Elle est pieds nus. Voilà,
de l'écran de mon téléphone.
Voilà, et elle est pieds nus dans ses sandales. Et l'autre look que j'adore, c'est quand elle revient de voyage de noces, elle a des bottes noires, elle a une jupe droite beige et elle a un haut noir. Et elle a toujours ses cheveux pratiquement blancs tirés en arrière. J'adore ça. La trouve... Oh, c'est le mystère à l'état pur, Caroline.
Oui, l'élégance est aussi du mystère pour toi.
Du mystère, bien sûr, bien sûr. C'est la femme à qui tu veux ressembler. C'est pas recherché. C'est la simplicité associée à la désinvolture. Mmh. Et puis ce truc qui s'appelle le chic que tu es incapable de définir.
Le truc.
Voilà.
Et écrire un livre sur Lady Diana.
Alors,
ou Elisabeth.
Alors oui, j'aimerais énormément plus Lady Diana parce que c'est très romanesque. Mais il y en a eu beaucoup, si tu veux. Et il y a ça aussi, c'est que sur Caroline et John, enfin sur John, il y a eu des livres en France, mais sur le couple, c'est le premier livre en France. Donc il y a des personnages qui me passionnent. Il y en a une qui me passionne, c'est Wally Simpson. Mais il y a eu beaucoup de choses. Voilà, Lady Diana, bien sûr, bien sûr.
Et c'est, en plus là, la famille d'Angleterre commence à prendre une tournure un peu maudite.
Un peu maudite, ouais. C'est terrible, hein. Charles a été couronné quand même il y a exactement un an.
Oui.
Il a attendu ça toute sa vie. Au bout de 6 mois de couronnement, il est obligé de se cacher pour faire son immunothérapie. Mmh. Kate, qui est la figure sur laquelle se repose toute la monarchie, est cachée depuis 6 mois.
Mmh. Et avec un cancer qui, à mon avis, est très très grave.
Ouais. Je sais pas, mais il semblerait.
Tu m'as dit aussi en préparant l'émission que tu ne peux pas écrire sur des gens vivants.
Alors non,
c'est un exercice plus différent.
Bah c'est, disons que c'est très difficile parce que les gens vivants vont t'attaquer. Si j'ai eu des petits soucis, hein. Pour Pamela, j'ai reçu une lettre anonyme et je pense que c'est quelqu'un qui était jeune et qui est dans le livre et qui est aujourd'hui une vieille femme, mais j'ai eu une lettre anonyme m'insultant, me disant que j'y connaissais rien aux demi-mondaines. Bon, voilà. Et puis, non, tu peux être attaquée. Ben, je te parlais de mon ami Jean-Noël Liot. Hubert de Givenchy l'avait choisi pour écrire sa biographie. La biographie est fabuleuse sur Givenchy, vraiment, je te la conseille. Et il y a eu des soucis entre Givenchy et Jean-Noël, que j'appelle John Christmas. Mmh. Et regarde, Dominique Bonnat, qui écrit la biographie de Jacqueline Deribes, tout le monde sait qu'il y a eu des soucis. Non, pour moi, c'est impossible. Puis alors, moi, j'ai pas envie qu'on m'ennuie. Moi, tu vois, je me lève, je suis clairvoyante, mais c'est vraiment ça, c'est complètement dingue. Je suis clairvoyante à 5 heures du matin. Quand j'écris un livre, je me lève, je suis là à 5 heures du matin et je suis clairvoyante. Et j'ai pas envie qu'on vienne me dire « Ah non, mais alors là, tu as dit quoi ? Mais je ne portais pas ce bracelet-là et puis j'ai pas envie. Mm-hmm. » Moi, si je mets ce bracelet-là au bras de telle femme, ce bracelet, elle l'a porté à un moment, peut-être pas à ce moment-là, sauf qu'à ce moment-là, le rythme de la phrase va bien. Et donc, j'ai pas envie qu'on me change mes mots.
Alors, on va finir par deux petites questions personnelles.
Oui.
Tu m'as fait visiter ton appartement.
Oui.
Tu as une collection de Barbie.
J'adore ça. J'ai l'impression que je suis née... Alors déjà, je suis née avec des talons hauts. Tu as certainement dû voir le film Barbie. Il y a ce moment... Ah, tu ne l'as pas vu. Écoute, va le voir. Il est formidable. Il y a ce moment complètement dingue de la Barbie où l'on voit que son pied est en fait... Elle est sur la pointe des pieds tout le temps. J'adore ça. Et c'est... Barbie, c'est la femme parfaite, selon moi. Les mensurations extraordinaires, elle est toujours très bien habillée, la taille marquée. Et je suis née en 65, Barbie est née en 59. On m'a offert mes poupées, ça a toujours été des Barbies. J'ai joué à la Barbie jusqu'à l'âge de 16 ans. Mon père était désespéré. Il a dit, est-ce qu'un jour, elle va regarder les garçons ? Bon, ben, je les ai regardés un peu après. Voilà. Mais c'est comme ça.
Alors, tu as autre chose dans ta salle de bain ?
Dans ma salle de bain, il y a des des sacs Courrèges, parce que quand j'étais jeune, je m'habillais en Courrèges, j'adorais ça. Et
tout autour de, tu les as accrochés ?
Je les ai accrochés tout autour de, comme une frise qu'on met en haut des murs d'une voilà. Et là, en fait, c'est une frise de sacs à main Courrèges qui malheureusement sont importables parce qu'ils sont très abîmés, le vinyle est fragile, et voilà, mais je les ai gardés et ça fait rêver tout le monde, mais ils sont trop abîmés pour les porter.
Et tu es élégante jusqu'au bout des ongles.
Je ne suis pas toujours élégante jusqu'au bout des ongles, mais je n'aime pas le laisser aller. Je n'aime pas ça. C'est quelque chose qui m'a toujours déplu. Maintenant, je peux te dire que le dimanche, quand je n'ai rien, je ne suis pas maquillée. Voilà. La seule chose, ce qu'il faut que tu saches, je n'ai jamais de talons plats. Ça n'existe pas. J'ai des baskets pour courir, mais c'est tout. Les talons plats n'existent pas.
Donc, toujours ?
Toujours, sur des... Oui ?
10, mais... 12, 8 ?
Oh, 8, 8, mmh. 8, tout de même. Mais
non, ça, ça te... Pourquoi tu te sens plus élégante ? Ça te donne confiance en toi ?
Oui, ça me donne confiance en moi. Sinon, j'ai l'impression d'être une naine, alors que je mesure 1m72. Mais non, ça me donne confiance. Si je n'ai pas mes talons, je me sens toute petite. Je préfère sortir dans la rue, pas maquillée, pas habillée, tout ce que tu veux, mais il me faut des talons. C'est essentiel.
Merci infiniment, Stéphanie.
Pour merci, cette, Valérie.
Cette interview sans phare ni paillettes et qui, moi, m'a transportée dans les années 30, 20, 30, 40, 50 et 90. Alors, je vous invite à lire le dernier, ton dernier livre, aux éditions Albin Michel, Caroline et John. Merci à toi.
Merci.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.